L'émission que vous allez suivre maintenant n'est pas un direct. C'est une rediffusion.
Dernier appel pour les passagers du vol 3 Airlines. Prière de se présenter à l'antre de la Vibe. Embarquement immédiat. Choisissez votre place et installez-vous confortablement.
Classico. Classico. Votre émission qui traite des questions d'économie, d'entrepreneuriat et d'innovation. Classico, c'est le rendez-vous pour vous qui voulez construire le Cameroun. Classico, de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, avec Nadine Enonguet.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez seulement maintenant. Vous êtes à l'écoute de Classico sur volume 3. Le programme, il a commencé depuis un peu plus de 10 heures et on a déjà parlé d'économie. Maintenant, on va parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a décidé de vous emmener dans le secteur du BTP. Je vous laisse découvrir qui est notre passager du jour.
Notre passager du jour embellit l'intérieur et l'extérieur de vos maisons. Staff, tapis de pierre, résine, époxy, béton décoratif, autant de possibilités et de techniques différentes pour que votre maison se démarque dans le voisinage. Pour la peinture et le revêtement, il est également disponible. Comment s'est-il retrouvé dans ce domaine d'activité et quels sont ses challenges au quotidien? On en parle. Classico a le plaisir de recevoir Ouabo Stéphane, promoteur de Ange Décor Duplex. Bienvenue à bord.
Le passager du jour dans Classico.
Voilà, on va donc parler aujourd'hui d'un volet. Parce que quand on dit BTP, on va penser qu'on ne peut pas parler de tout. À chaque fois, il y a des profils différents et des expertises différentes. Aujourd'hui, on a donc Stéphane Ouabo, promoteur de Ange Décor Duplex. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour.
Bienvenue chez Volume 3.
Merci infiniment, merci.
Ça va aller ?
Très, très bien.
Ok, de toutes les façons. Votre histoire, on va débuter, on va dire quoi ? Ça débute forcément avec l'arrêt de vos études en classe de seconde.
Exact.
Si j'ai bien fait mes devoirs, pour des raisons que vous évoquez, si vous le souhaitez. Avant cet arrêt, vous aviez, je suppose, un métier de rêve, comme tout jeune.
Exactement.
Vous vouliez faire quoi ?
En fait, lorsque j'étais tout petit, je rêvais de faire dans la musique parce que j'ai même fait carrière dans la musique.
Mm-hmm.
J'ai fait carrière dans la musique, je faisais du rap gospel, mes parents n'ont vraiment pas aimé.
Ok.
Plus tard, bon, j'ai dû quitter la famille, je suis allé à Baouya.
Mm-hmm.
Oh, c'était pas vraiment facile en fait.
Ok.
C'était très très compliqué. Bon, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui m'a tendu la main volontairement et dans ce qu'il faisait, c'était l'art. En fait, je me suis retrouvé dans l'art toujours.
Mm-hmm.
Je suis quitté de l'art à l'art.
Ok.
Oui, donc j'ai trouvé le moment pour moi d'exploiter cette compétence-là.
Donc, quand vous le rencontrez, qu'est-ce que lui fait concrètement? Est-ce que du premier coup, ça vous intéresse? Vous vous dites quand même, mon rêve de star et tout ça, qu'est-ce que j'en fais?
Alors, effectivement, lorsque je le rencontre, ce monsieur, c'était un monsieur très gentil d'abord. Je tire un coup de chapeau à lui et tous mes bénédictions, en fait.
Mm-hmm.
Donc, lorsque je le rencontre, je voulais juste un salaire de 2500 francs. Par jour.
Mm-hmm. Comme manœuvre de chantier.
Comme manœuvre de chantier. Et c'est lui qui me fait poncer les murs parce qu'il faisait le staff et la peinture.
Mm-hmm.
Bon, je lui fais comprendre, il n'y a pas de souci. Avec mes 2500 francs, je veux juste un travail d'une semaine.
Ok.
Donc, parce que c'est un agent qui devait partir continuer ma carrière. Je voulais travailler chez Boytac à Maïtou.
Mm-hmm.
Donc, je voulais travailler chez Boytac à cette période-là. Cet agent devait m'aider en fait.
Ok.
Donc j'ai fait 2 semaines sans salaire et après, vu tout le travail que j'ai abattu, il a sollicité mon aide, il a sollicité en fait que je me forme.
D'accord. Donc,
il a vu cette compétence-là en moi.
Mm-hmm.
Et il m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je lui ai fait comprendre, je fais dans la musique. Il m'a dit laisse. J'ai un bon plan pour toi. Si tu acceptes, je te forme. C'est comme ça que j'ai accepté. En fait, les yeux fermés.
Ok.
Je ne connaissais pas c'était quoi le staff. J'avais pratiquement 15 ans.
Ok.
15 ans, 16 ans.
D'accord.
J'avais pratiquement 15 ans, 16 ans.
Donc, il vous prend sous son aile durant combien de temps? Qu'est-ce que vous apprenez? Vous y restez combien de temps?
Donc, il me prend sous son aile durant 2 ans.
D'accord.
Durant 2 ans de manœuvrage et d'apprentissage. et avait les leçons de vie parce qu'il ne voulait pas me montrer c'était quoi l'argent, combien on gagnait dans ça.
À 15 ans quand même.
Oui. Donc j'ai presque fait 2 ans sans salaire, de galère. Moi je buvais du tapioca chaque jour.
Mm-hmm.
Et je dormais là-bas, il n'y avait pas de porte, pas de fenêtre. J'étais seul. En cette période-là, la grève, c'était...
Oui.
C'était vraiment, vraiment, vraiment...
Compliqué.
Compliqué. Non, j'ai fait avec.
Donc, vous avez fait 2 ans, vous avez appris, vous avez juste appris quoi? Le staff, à poser le staff et tout ça?
J'ai juste appris dans ces 2 ans, poser le staff, faire la peinture, faire les décorations murales, tout.
Mm-hmm. D'accord. Donc, 2 ans après, vous décidez de partir de là.
Exactement, 2 ans après, j'ai décidé de partir de là. Donc, je me retrouve sur un autre anglophone qui m'amène au Nigeria. Au Nigeria, j'apprends encore plus de la décoration.
Donc, vous avez 17 ans et vos parents vous laissent partir au Nigeria?
Ils ne savaient même pas.
Comment ça? Il faut bien m'expliquer.
En fait, vous
avez 17 ans. Vous êtes resté de 15 à 17 ans chez quelqu'un qui vous a un tout petit peu formé. Vous avez 17 ans, vous retrouvez au Nigeria. Vous êtes mineur. Vos parents ne sont pas au courant. Il faut qu'ils comprennent bien l'histoire.
Exactement. Mes parents ne sont pas au courant. Déjà, mon père, chez nous, les Bamilékés, mon père... À partir d'un certain âge, on n'a plus trop les yeux sur toi.
Okay.
Autant donné que je suis quitté de la famille un peu bizarrement, parce que j'ai juste fui.
Okay.
J'ai juste tout abandonné. Mais mon père n'avait plus les moyens pour pouvoir payer mes études secondaires. Donc, j'ai trouvé l'opportunité pour moi de me chercher.
D'accord. Donc, comment ça se passe pour qu'il vous emmène au Nigeria?
Bon, comment ça se passe? Il avait un chantier au Nigeria. Et tout simplement, moi, je lui ai dit que je veux partir. Donc, je n'étais pas vraiment le bienvenu, mais j'ai dit je veux partir. Je lui ai proposé mes services gratuitement.
D'accord.
Je lui ai dit, si je viens, je travaille gratuitement. J'avais une ambition, en fait.
Mm-hmm.
Ce n'était pas vraiment décalé, mais j'avais une ambition.
D'accord.
Donc, directement, je suis arrivé, je lui ai proposé mes services. On a travaillé pratiquement pour 3 mois mm-hmm. et demi. Et dans le chantier, il y a plusieurs corps du bâtiment.
Oui.
Donc, j'ai retrouvé maintenant un autre corps
mm-hmm.
qui devait encore compléter mes compétences. Lorsqu'ils sont rentrés, moi, j'ai fui la nuit là et je suis parti apprendre par derrière.
D'accord. Et là-bas, vous avez appris quoi?
Là-bas, j'ai appris plus de la décoration murale. Donc, ce sont des enduits que j'appelle enduit Paul Biya. Donc, c'est un enduit assez viscifié, assez résistant, très durable en fait.
Mm-hmm.
Ouais.
Donc, au Nigeria, vous restez pendant combien de temps?
Au Nigeria, je fais pratiquement 6 mois.
D'accord. Et après, vous revenez?
Après, je reviens tout seul.
Et quand vous revenez au Cameroun, c'est quoi? Vous lancez directement, vous lancez votre entreprise, vous faites encore 2-3 chantiers?
Quand je reviens au Cameroun, c'est difficile parce que je n'ai plus de relations, je n'ai plus de compétences. Donc, je dormais à quoi? Dans la rue? J'ai tapé les mains à certains techniciens quand je marchais dans les chantiers. Bon, une personne étant plus petite, une personne m'a dit « Tu es sûr, tu peux vraiment travailler ce staff ?» J'ai dit que « Laisse-moi travailler gratuitement et puis tu verras.
Mm-hmm. »
Donc, il m'a laissé cette opportunité de travailler gratuitement pour une semaine. Et il était satisfait. Donc, il m'a remis une somme de 350 000 francs,
mm-hmm.
me disant qu'il ne pouvait pas m'exploiter.
Oui.
Donc, avec ces 350 000 francs, j'ai pu trouver une petite chambre en Bonangang. Je suis resté.
Mm-hmm.
J'ai continué à travailler avec lui. Il m'a proposé à des ingénieurs, des entrepreneurs. Et voilà comment ça montait. Vu que j'étais très jeune, très compétent, c'est parti. Donc, après un an, j'ai ouvert mon petit business de dépôt à PK15.
Mm-hmm.
Dépôt des œufs,
oui.
Donc qui n'a vraiment pas tourné.
Ça n'a pas vraiment marché.
J'étais pas vraiment compétent dans ça.
Oui.
Donc j'ai porté toute la marchandise, j'ai donné à tous ceux qui faisaient les cafétérias gratuitement.
Mm-hmm.
Je leur ai donné tout ça gratuitement. J'ai juste eu les relations.
Oui.
Donc il y a un nordiste à PK19 à l'entrée de 2 églises qui avait son bâtiment. Il me devait beaucoup d'argent.
Mm-hmm.
Et il ne voulait pas payer, mais. Vu que je postais mes travaux, ça lui a intéressé et il m'a confié sa maison.
C'était le premier vrai chantier de vous en solo.
Exactement.
Et c'est ça qui a de là que tout est parti.
De là tout est encore parti, c'était très très grand parce que chez eux là-bas ils ne connaissent pas trop le staff, donc la décoration intérieure.
Mm-hmm.
Il a vu ce jeune là qu'il devait de l'argent et vu qu'il a son projet qu'il aimerait essayer.
Mm-hmm.
Donc, ces grandes relations m'ont encore plus nourri.
D'accord. Donc, c'est de là que vous décidez de créer ADD.
C'est de là que j'ai créé ADD.
D'accord. Justement, avant qu'on entre dans le détail peut-être pratique, quand je regardais chez les réseaux sociaux, je vois qu'il y a ADD, il y a la maison de l'art et il y a Hightech Design Décor. Je me suis demandé, mais ces 3 entreprises différentes qui font la même chose, c'est juste 3 pages différentes pour promouvoir des activités. C'est quoi?
C'est 3 pages juste pour promouvoir. À la base, c'est ADD. ADD, c'était le nom que mon patron avait donné d'abord. Mon premier patron, celui qui m'a vraiment pris dans la rue, j'aimerais dire, ou bien d'ailleurs.
Mm-hmm.
Lorsqu'il m'appelait ADD, il disait Ange Décor.
D'accord.
Et Ange Décor, c'est son petit frère qui met Duplex.
D'accord.
Duplex, pour lui, c'était le cadre personnel.
Mm-hmm.
Dans le cadre personnel, on fait exactement la décoration. C'est pas comme les immeubles qu'on veut mettre en location.
Oui.
Oui, donc Ange Décor et Duplex, c'était... C'était ce nom-là qu'il a donné.
Mm-hmm.
Donc c'était ce que j'avais prévu créer comme entreprise.
Ok.
En exploitant ce nom. Donc, mais la maison de l'art, c'est dans le cas où je voulais ouvrir une boutique
mm-hmm.
d'accessoires, de décoration. Et là, je devais mettre la maison de l'art.
D'accord. Exactement. Ok. Donc ça reste, on reste dans le même secteur d'activité.
Exactement.
Maintenant, je veux qu'on parle du staff qui vous a un peu lancé dans ce métier-là. Le staff, est-ce que c'est une meilleure option, on va dire quoi, qu'un plafond en lambris ou que tous les autres plafonds qu'on peut avoir? Parce que moi, je n'ai jamais vraiment trop compris. C'est plus un élément décoratif ou c'est vraiment un élément central de la maison?
Tout à la base, le staff, c'est là, disons d'abord comme ceci.
Mm-hmm.
Le staff n'a vraiment pas d'impact sur la santé de l'humain, comme on le dit. Moi, j'ai travaillé le staff depuis des années, je n'ai jamais eu de soucis et je n'ai pas encore vu quelqu'un avoir ces soucis-là. Donc, le staff... En fait, c'est l'idéal. Moi, je proposerais le staff assez résistant. On a un seul problème, c'est qu'actuellement, dans l'entrepreneuriat, dans le bâtiment, le corps technique ne respecte plus les normes.
OK.
Donc, aussi, les promoteurs ne veulent pas payer pour avoir une bonne finesse.
Mm-hmm.
Il faut beaucoup économiser, il n'y a pas assez d'argent. Donc, le staff finit par peut-être s'écouler, assez gâté. Les techniciens aussi deviennent un peu plus avares. Donc, ne veulent plus vraiment investir l'argent sur ce staff-là. Donc,
ça coûte plus cher ou moins cher qu'un plafond, on va dire quoi, en lambris ou un plafond normal?
En fait, ça coûte plus cher.
Ah, d'accord. Ok.
Ça coûte plus cher.
Maintenant, staff et infiltration d'eau. Parce que très souvent, on a peur, il y a des gens qui ont des bâtiments et puis on a des infiltrations d'eau. Après, ça s'abîme aussi. Du coup, comment on fait du point de vue du technicien que vous êtes?
Tout à la base, lorsque je fais mes vidéos, j'explique. J'explique toujours et toujours pour beaucoup de personnes qui font le staff et qui ne comprennent pas. Le staff n'a pas de problème avec l'eau.
Okay.
Parce que le staff, lorsqu'on respecte les normes, par exemple, d'un centime et demi, deux centimes, le staff, qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle est à sec? Elle va absorber de l'eau.
Okay.
Donc le staff va absorber l'eau, absorber à une forte quantité. J'aimerais même dire que si vous versez un flux d'eau sur ce plafond qui est au-dessus de moi là, ça ne va pas couler. Le staff va absorber et après, ça va s'évaporer.
D'accord.
Mais si vous avez travaillé ce staff là avec une épaisseur de demi centimes comme ce petit portable là,
mm-hmm.
ça va ressortir et après ça va lâcher.
D'accord.
Dans le staff, le bâtiment, il y a des normes à respecter.
Mm-hmm.
Lorsqu'on ne respecte pas ces normes là, ce n'est plus la même chose.
D'accord. Donc en toute chose, le respect des normes, c'est important. Donc en fait, au lieu d'avoir le bois qui va s'abîmer avec de l'eau, on peut mettre le staff pourvu qu'on respecte les normes établies dans le secteur.
Exactement, parce que lorsqu'on parle même de l'adéquation des plafonds, lorsqu'on parle du staff, c'est le plus idéal. Beaucoup de personnes ne comprennent pas lorsqu'ils vivent sur le placo. Le placo, c'est du staff.
Okay.
C'est du même plâtre qu'on a mélangé avec du bois.
Mm-hmm.
Et le bois, l'entretien du bois, ce n'est pas petit argent.
D'accord. Ok. Maintenant, je veux qu'on parle du... Parce que je vois beaucoup, c'est ce qui est à la mode en ce moment. Et je pense que c'est pour ça qu'en scrollant aussi, je vous ai parlé. C'est les sols de pierre avec le travail de la résine époxy et tout ça. Ça, c'est toujours le résultat du Nigérian ou bien c'est le professionnel que vous êtes déjà qui avait appris à faire ça tout seul?
Ça, c'est tout seul, moi seul.
Ok.
Moi, c'est en fait, j'aime trop la décoration. Je suis trop passionné de l'art. Donc, je ne passe pas mes journées à regarder les TikTok des personnes qui dansent. Je passe mes journées à chercher, à faire des recherches, à faire des demandes, à trouver des solutions, à vouloir créer des produits.
Mm-hmm.
Et lorsque je scrollais, je vois beaucoup plus en Amérique, en Belgique. On fait beaucoup plus des sols en résine époxy, en ciment décoré. En fait, ces ciments-là ne sont pas comme des carreaux comme ceci.
Mm-hmm.
Et puis, je me suis dit, bon... qu'est-ce qui nous manque au Cameroun pour ne pas avoir ce type de résultats?
Oui.
Et puis, lorsque je fais mes recherches, je me trouve peut-être au nord. Parce que lorsque je vais au nord, je fais des recherches, je marche, je vois des pierres partout. Il y a une fois, je scrollais sur Facebook, j'ai vu dans un live de M. Steve Farr, un gars de la diaspora lui demandait, est-ce qu'on ne peut pas créer des carreaux au Cameroun vu qu'on a tous les pierres, etc. À partir de cela, lorsque je suis arrivé au nord, j'ai vu ces pieds-là, je me suis dit, bon, tiens, avec ces pieds, je pense que je peux créer quelque chose.
Mm-hmm.
Avec ces pieds, je pense que je peux créer quelque chose. Donc voilà comment je me suis demandé, avec quel type de ciment est-ce que je peux avoir ce type de décoration. Je me suis retrouvé en train d'utiliser des ciments ordinaires. Ça faisait le tapis de pierre traditionnel. Et ce n'était pas vraiment le résultat. Donc j'apprends au fur et à mesure.
Mm-hmm.
Donc je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ce même résultat que je vois partout. Je me suis mis sur la résine époxy au-dessus des tapis de pierre traditionnels. Ça n'a vraiment pas donné quelque chose de nécessaire. Et après, j'ai viré sur le ciment blanc.
Mm-hmm.
Le ciment blanc a plusieurs ponçages. Je me retrouve avec un carreau sans joint, un carreau assez solide et que je place même des garanties de 20 ans sur ce projet. Et là, j'ai créé dans la page Hightech Design pour pouvoir promouvoir ce projet-là, afin d'avoir des personnes qui pourront me confier leur projet et leur dire qu'on pourra tout faire sur place. Donc j'ai contacté un manager, il m'a créé cette page, je le paye et il fait le travail.
Donc en fait, c'est aujourd'hui ce que vous mettez en valeur, c'est un sol de pierre qui est fait à base de pierre et de ciment blanc.
Exactement.
C'est quoi, c'est le ciment colle ou bien c'est le ciment juste, c'est juste blanc?
Juste un ciment blanc.
D'accord. Et maintenant, ces pierres là, vous avez dit que vous en avez découvert de beaucoup, il y en a beaucoup dans le Grand Nord. Ça veut dire quoi? Vous faites venir les pierres du Nord? Est-ce que les pierres viennent d'un territoire en particulier?
On fait venir les pierres du Nord. Et les pierres sont déjà concassées de là.
Okay.
En fonction des dimensions que nous aimons avoir. Lorsque vous partez au Nord, partout en route, on expose ces pierres.
Mm-hmm.
Et il y a des coins là où on concasse, il y a des personnes là qui sont en train de concasser ces pierres. Et ce n'est pas seulement un divertissement pour eux parce que ça ne passe vraiment pas sur leur marché. Sauf quand nous, maintenant, nous arrivons, on va en quantité.
Mm-hmm.
Là, ils réussissent à gagner de l'argent. Donc, ça permet aussi qu'eux aussi puissent gagner de l'argent.
D'accord. Mm-hmm. Donc, régulièrement, vous avez déjà des fournisseurs là-bas et puis vous faites venir des stocks de pierres.
Exactement.
Voilà. Dans la deuxième partie de tout à l'heure, on va parler concrètement des services que ADD peut vous proposer pour l'aménagement, l'embellissement de vos maisons et de vos différents chantiers. On va souffler un tout petit peu. On se dit à tout à l'heure.
Le passager du jour dans Classe Éco.
Nous sommes de retour pour la deuxième et dernière partie de notre échange avec notre passager du jour, Stéphane Wabo. On parle de décoration d'intérieur et d'extérieur, mais là c'est plus BTP. Ce n'est pas forcément les objets d'art qu'on accroche dans toute la maison, même si c'est une extension à venir. Et donc dans cette partie, on va parler des services, de tout, je ne suis pas sûre que ce sera tout, des services que vous proposez chez ADD.
Déjà, chez nous proposons des services de revêtement de sol en tapis de pierre, en carrelage également, pour ceux qui n'en ont pas assez,
mm-hmm.
et en résine époxy.
D'accord.
Nous proposons des services d'habillage mural, en peinture, en enduit décoratif et en enduit vitrifié également. C'est toujours l'enduit décoratif en fait.
Mm-hmm.
Et nous proposons les services de staff et de plafond en placo.
D'accord. Donc, je pense qu'on va essayer de service par service là. Peut-être qui est la meilleure option et puis dans quelle fourchette on doit se situer niveau budget, parce que c'est pas évident. Quand j'entends le tapis de pied et puis les carreaux, pour ceux qui n'en ont pas assez, il faut qu'on nous explique un peu.
Exactement.
Jusqu'où ça peut chiffrer.
Exactement.
On commence par quoi? Les tapis de pierre?
D'accord, commençons par le tapis de pierre déjà.
Mm-hmm.
Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que le tapis de pierre que nous proposons, c'est un revêtement qui remplace pas le carreau seulement, mais qui remplace le marbre et le granit.
D'accord.
Ce sont les mêmes constituants, parce que le granit et le marbre, c'est toujours des pierres.
Mm-hmm.
Maintenant, nous créons ces pierres de marbre et granit simplement.
D'accord.
C'est un revêtement qui demande une épaisseur.
D'accord.
Une épaisseur de 1 cm et demi ou encore 2 cm, raison pour laquelle nous parlons d'une haute garantie de 20 ans sur projet et d'un ponçage pour entretien à chaque 20 ans.
D'accord.
Donc là, c'est pour, par exemple, ceux qui ont les moyens, parce qu'on pose le mètre carré du granit à partir de 45 000.
Ok.
Et le mètre carré du marbre fourniture pose à partir de 60 000.
Mm-hmm.
Or, nous faisons la pose de notre tapis de pierre en béton, de marbre, granit ou encore en béton de marbre simplement à 30 000 et 37 000 le mètre carré et fourniture et pose. Et
d'accord.
Donc nous mettons des hautes garanties sur le projet.
Donc 30 et 35 000, c'est
exactement.
Ça. Le mètre carré.
Le mètre carré.
Le mètre carré là, sur le sol, si ça ressemble à quoi? Parce que moi j'aime visualiser les mètres carrés là, les mathématiques m'avaient dépassé. Sur le sol, si ça ressemble à quelle partie?
Bon, voici le carreau de 60 par 60, ça veut dire que 4 carreaux ça fait 1 mètre 40.
D'accord, donc c'est ça. 4 carreaux comme ça.
Bon, 4, disons 3 carreaux et demi.
D'accord, oui, comme ça je vois, moi je visualise mieux. Exact. Ça, c'est, et c'est des grands carreaux, on n'est pas sur les petits, sur les petits carreaux, donc franchement, si on a une grande maison, ça doit faire mal. Mais vous dites tout que c'est moins cher que si on veut mettre les carreaux en marbre et tout ça.
Exactement, c'est moins cher parce qu'il y a des personnes qui mettent le marbre dans toute la maison. Moi, j'ai travaillé chez le colonel Edouard et ton décote ici à Bonanjo. Tout son duplex, son triplex, tout ça, c'est le carreau, c'est le marbre.
Donc, le tapis de pierre, c'est l'alternative de luxe sans le prix.
Exactement.
D'accord. Exactement. Donc, après, on a quoi soit avec la résine ou avec le ciment, on reste sur les mêmes coûts?
On reste sur les mêmes coûts, pas forcément, parce que la résine, c'est à partir de 16 000 lorsque le sol a déjà le carreau, comme ici. Parce que quand il a déjà mis le carreau, il faut juste faire le rebouchage. Ça veut dire qu'il faut fermer tous les joints et puis mettre la décoration de résine au-dessus. Donc là, c'est à partir de 16 000. Et lorsqu'il n'y a pas encore de carreaux, ça part de 16 à 37 000 le mètre carré.
D'accord. Alors là, le BTP a l'argent, hein, mais bon. Les techniciens n'acceptent jamais qu'ils ont vu l'argent un jour. Donc après, on a quoi? Le staff?
Bon, après, nous avons, le staff. Déjà, le staff aussi, elle est large. Le staff est tellement large. Donc, lorsqu'on va parler du staff, si on parle du staff plafond, il y a des simples modèles comme ici au-dessus de nous qui ne coûtent vraiment pas. Bah, ça, c'est sous la dalle.
D'accord.
Environ, c'est 8000 le mètre carré, fourniture et pose. Lorsque le matériel nous revient cher, parce qu'il y a des périodes que le matériel part à plus de 10 000 le sac.
D'accord.
Mais lorsque le matériel nous revient cher, ça peut nous revenir à moins de 10 000. Et lorsque le matériel nous revient moins cher, ça peut nous revenir à moins de 8 000 le mètre carré, fourniture et pose.
D'accord.
Donc, si on parle des plafonds géométriques comme ce que nous faisons là où je me suis formé.
Quand on dit que plafond géométrique, c'est qui? C'est pas mon métier. Du coup, le plafond géométrique, c'est quel comme ça?
Plafond géométrique sont des coupes de plafond. Ce sont des coupes de
plafond. On met des formes dessus.
On fait des formes, on crée des luxes. Il y a trop d'ouvertures, des entrées, des sorties, des descentes. Ce que nous appelons des plafonds géométriques, en fait, c'est un peu comme ce que les Arabes font chez eux.
Ok.
Ou est-ce que vous allez voir au Nigeria, il n'y a pas de plafonds comme ceci au Nigeria.
Ah, il y a toujours des...
Il y a toujours des coupes.
Ok, d'accord, je vois. D'accord. Moi, je vois. J'espère que vous voyez aussi au quartier, à la maison, que si vous êtes du métier, vous le comprenez. Vous le comprenez forcément. Donc, il y a quel autre service?
Les services que nous proposons en Suisse sont des revêtements muraux.
Avec quoi? Les alucobons, les papiers peints, les trucs comme ça,
En fait, nous déconseillons déjà tout ceci. Ça s'inflamme. Et l'alucobon, maintenant, c'est dans les boîtes de nuit. Ce sont des revêtements intérieurs des boîtes de nuit parce que ça permet de bloquer les sons. Voilà, c'est pour les boîtes de nuit. Quelqu'un peut pas mettre ça dans sa maison, sauf si c'est quelqu'un qui fait des choses en secret.
Ok, d'accord.
Donc nous proposons les enduits murales en pentequat, en pierre toujours, parce que nous avons fait des enduits en pierre. Nous essayons d'exploiter les pierres autant que possible, pour que nous ne galérons plus toujours dans nos ressources premières, en fait. Donc après ceci, nous proposons aussi des enduits décoratifs en effet marbré qui résistent aux intempéries, qui résistent à la saleté et qui résistent aux moisissures également.
D'accord, c'est vrai que les moisissures, c'est vraiment un sujet dans les maisons, entre les infiltrations d'eau et les zones marécageuses et les pluies et les travaux compliqués.
Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il n'y a toujours pas d'ingénieur qui a réussi à arrêter ça. Pourtant, il y a beaucoup d'ingénieurs camerounais. Ça, je n'ai jamais compris ça.
Ah! On les laisse à leur corps de métier. Du coup, comment est-ce qu'on vous contacte pour éventuellement vous avoir sur un chantier?
En fait, pour nous contacter, nous répondons au 696-05-41-39. Uniquement.
Donc, c'est par appel?
Par WhatsApp ou bien par appel?
Quand on vous contacte, c'est quoi la procédure? Il y a les frais pour venir voir le terrain, pour venir, pour venir regarder et faire un devis, c'est quoi, comment? Exactement. Concrètement?
Lorsqu'on nous contacte, directement, si vous nous écrivez sur WhatsApp, ça va directement vous envoyer ces propositions-là.
Okay.
Donc, lorsque vous nous contactez, je suis dans Douala, parce que je suis basé à Douala. Voilà, les frais de déplacement, c'est 5 000 le local et le devis, c'est 10 000.
D'accord.
Le devis, c'est 10 000 lorsque c'est... une villa, une simple villa. Et lorsqu'on parle d'immeubles, on parle de châteaux, le devis peut être plus que ça.
D'accord.
D'accord. Et lorsque vous nous contactez et que vous sollicitez peut-être dans la ville de Yaoundé, où j'ai mon représentant à Yaoundé, c'est pareil. Mais maintenant, celui qui veut me déplacer personnellement, comme beaucoup de personnes, disent que non, chez toi, celui qu'on veut voir, on a pour ton numéro chez telle personne, etc. Mon dépassement, c'est à partir de 25 000 pour sortir de Douala.
D'accord.
Et mon devis est payant, mon expertise est payant.
D'accord, ok. Donc, on peut vous déplacer, mais il faut y mettre le prix. Cette partie-là, on a compris. Je veux qu'on revienne sur l'aspect du matériel, parce que en scrollant, j'ai vu que vous n'êtes pas fan des clients qui veulent acheter leur matériel eux-mêmes quand il faut faire les travaux. Pourquoi ?
Déjà, c'est un point qui touche beaucoup plus notre secteur. Nous n'avons pas seulement des clients qui sont un peu trop avares ou bien fermés, mais nous avons aussi des techniciens qui sont encore beaucoup plus bandits.
Ok.
Donc voilà, on arrive dans l'écosystème où le technicien, lui, il veut gagner plus que ce qu'il a mentionné qu'il devrait travailler et gagner.
Mm-hmm.
Donc il va vous dire que, parce que un technicien compétent peut utiliser plusieurs matériaux et revenir au même résultat.
Oui.
Donc le technicien se base sur cette compétence-là pour dire au client que bon voilà, je vais acheter le matériel et voilà comment ça va se passer. Donc non seulement il va prendre l'argent, il va être beaucoup avare et il ne va pas vraiment fournir le matériel qu'il devrait, normalement fournir.
Mm-hmm.
La seule et unique option pour un promoteur de savoir vraiment si son technicien va fournir le matériel et faire son travail, c'est de demander une garantie sur le projet.
D'accord.
Et au Cameroun, nous n'avons vraiment pas les techniciens qui font un travail peut-être avec une garantie.
Mm-hmm.
Il va te faire un devis mais sans de garantie. Donc dès que tu donnes son argent, il finit de faire ton travail et c'est ni vu ni connu.
Donc, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites justement sur cet aspect-là pour mettre le client en confiance? Parce que oui, justement, je vais me rassurer. Du coup, j'ai mon argent, je vais acheter mon matériel, moi-même, quitte à ce que vous vous débrouillez. Après, comment est-ce que vous faites pour les rassurer sur cet aspect?
Personnellement, chez nous, nous donnons d'abord une garantie sur le projet. C'est pour faire comprendre au promoteur que si c'est nous qui fournissons votre matériel, vous avez une garantie, par exemple, de 20 ans ou de 10 ans.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'en cas de pépin, je suis responsable de venir faire les réparations de votre bâtiment à mes frais.
D'accord.
Donc maintenant, si le client va acheter son...
Cette garantie-là, c'est quoi? C'est un document légal?
C'est un document légal.
OK.
C'est un document légal. Donc maintenant, si le client aimerait acheter lui-même ses fournitures, il fournit et on pose, mais il n'y a pas de garantie dessus. Parce que nous ne connaissons pas quel est le matériel qu'il est allé acheter.
Mm-hmm.
Est-ce que nous allons vraiment donner le résultat que nous avons espéré avec ce matériel-là? Parce qu'il y a le matériel aussi, il y a trop de contrefaçons dans les produits.
Mm-hmm.
Ici chez nous, on a beaucoup ce problème-là.
D'accord.
Et seul le technicien connaît qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais.
Mmh, d'accord. Justement, pour qu'il y ait beaucoup plus de techniciens comme vous, vous formez.
Exactement. Et ce n'est pas vraiment pour qu'il y ait beaucoup plus de techniciens comme nous. Moi, personnellement, je forme parce que j'ai arrêté de former depuis parce que j'ai eu à former des amis.
Mm-hmm.
J'ai eu à former des amis, des camarades de classe qui m'ont vu après quelques années et qui m'ont dit « J'aimerais être comme toi, voilà, prends-moi sur ton aile. » Et j'ai formé gratuitement parce que moi aussi, on m'a formé gratuitement.
Mm-hmm.
Donc voilà, et quand je formais gratuitement, c'est pour avoir la compagnie parce que j'étais trop sollicité, j'ai refusé les projets. Jusqu'à présent, j'ai refusé les projets parce que je n'ai pas d'équipe.
Ok.
Donc lorsque je prends quelqu'un pour former, c'est « Tu me donnes ton petit champagne, ton petit whisky. » Si tu as un enveloppe à me donner, tu me donnes. Je te forme et on fait un contrat que tu vas travailler avec moi pendant tel nombre de temps.
Jusqu'à présent, c'est comme ça que vous fonctionnez.
Exactement.
Mais si quelqu'un veut juste venir vous payer pour être formé et aller vivre sa vie, ça vous refusez?
Non, là, on s'entend sur les prix.
OK.
On s'entend sur les prix et puis dès que
il n'y a pas de prix standard qui soit déjà défini.
Non, en fait, même chaque jour, je monte parce qu'il y a de cela. Oh, moi, j'étais sur le béton de marbre que je suis encore que j'étais à 52 000.
Mm-hmm.
Après une semaine, je suis passé à 75 000 parce que tout le monde a demandé. Et après la fin de février, cela, je serai à 150 000 pour celui qui sera intéressé.
Et les formations en fonction de ce qu'on vient apprendre, ça peut durer combien de temps?
Ça peut durer maximum. Sur le béton, le marbre, ça dure 2 semaines.
Ok.
Sur la résine et poursuivre, c'est 3 jours, 4 jours. Sur le staff, c'est 1 an, 2 ans.
D'accord.
Parce que le staff, il est large.
Ok. Quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes que ça intéresse.
Tellement de personnes, ça intéresse tellement de personnes. Et beaucoup de personnes aussi n'ont pas de moyens.
Mm-hmm.
Beaucoup de personnes n'ont pas de moyens.
D'accord. Peut-être un des aspects qu'on n'a pas, sur lequel on n'a pas insisté, mais je voudrais quand même qu'on en parle parce que je pense que quand on travaille dans le BTP, il y a forcément des précautions qu'il faut prendre dans la manipulation de tous ces éléments-là. Est-ce qu'avoir juste un masque, ça suffit pour manipuler la résine époxy, le staff et tout ça, ou bien non? Comme vous disiez tout à l'heure, que le staff, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'avoir de protection.
Déjà, parlant pour le staff, on n'a pas besoin de protection parce que le staff a besoin de notre paume de main.
Ok.
Sans ce mélange à la paume de main, le staff ne sera pas solide.
Ok.
Si on met des gants, on mélange avec, ça fait ce que nous appelons le gâchement. C'est pas résistant.
Ok.
C'est fragile, c'est mou.
Mm-hmm.
Voilà. Donc il faut automatiquement travailler à la main.
Okay.
Bon, la poussière, le staff maintenant, nous pouvons dire pas que c'est une poudre que nous absorbons cette poussière-là.
Mm-hmm.
Là, il faut peut-être prendre des précautions, mais qui ne sont pas nécessaires aussi, parce qu'à chaque moment, tu sens que tu es étouffé, toi, avec ce masque. Nous travaillons peut-être en hauteur, nous sommes, il y a la chaleur, etc.
Mm-hmm.
Tu ne vas pas pouvoir bien respirer.
Okay.
En résine époxy, alors, évidemment, il faut porter un masque, il faut porter obligatoirement un gant, parce que ça brûle.
Mm-hmm.
Ça brûle la paume de main. Ça fait comme le ciment brûle la paume de main également.
Ok.
Le ciment ordinaire.
Ok. Quel est l'aspect qui est le plus difficile au quotidien dans votre métier? Ou bien parce que c'est par passion aujourd'hui, vraiment tout est simple.
J'aimerais dire que dans mon métier, pour moi, je le dis toujours constamment à mes gars. Parce que mes gars n'ont jamais compris comment, lorsqu'un client donne un plafond et que je leur demande de réaliser, ça devient compliqué. Et quand c'est compliqué, tu dis à mon équipe, laissez tomber. Aller dormir et réfléchissez. Quand ils réfléchissent, ils reviennent le lendemain, ils ne peuvent pas le faire. Mais moi, lorsque je suis sur un projet, ça me menace, je dors.
Mm-hmm.
Et le lendemain, je reviens, ils vont juste voir que j'ai déjà travaillé le travail.
Ouais.
J'ai déjà trouvé une solution. En fait, pour moi, c'est devenu plus simple. Il n'y a plus rien de compliqué sur moi. Pour moi, dans le bâtiment, plus rien à découvrir.
Ça se passe toujours aussi bien avec les clients? Ou bien, quelquefois, après, il y a des parties où on ne s'entend plus, où on s'était entendu au début, mais après, ça ne marche plus vraiment.
On dit que quand c'est trop bien, c'est que ce n'est plus bien. Donc, il y a toujours. Il y a les clients, vraiment, vous vous entendez, ça fait la famille. À un moment, il faut chauffer les têtes. Parce que si vous ne chauffez pas les têtes, on ne va pas connaître quel est ton tempérament, qu'est-ce que tu n'aimes pas et puis qu'est-ce que l'autre n'aime pas.
Ok.
Ouais.
D'accord. Donc, pour ceux qui vous découvrent éventuellement aujourd'hui, vous, votre activité, votre univers, peut-être des jeunes que vous allez inspirer, peut-être sait-on jamais aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire?
En réalité, j'aimerais dire à tout jeune de chercher la compétence. J'aimerais dire à tout jeune de se former. C'est la base. Chercher la compétence, se former, avoir des relations. C'est la seule et unique option maintenant. Parce que je ne pense pas que si tu ne produis rien avec tes mains, tu pourras être riche un jour.
Ok.
Il faut une main qui produit pour être riche. Si ta main ne produit pas, tu ne pourras pas avoir des entrées financières stables.
Ok, d'accord. J'espère que tous ces jeunes-là ont écouté ce beau message
ils vont écouter.
D'encouragement aujourd'hui. Votre parcours est à saluer, votre persévérance également. Merci beaucoup Stéphane Wabeau d'être venu nous parler de votre métier.
Merci infiniment, c'est tout le plaisir de mon côté parce que c'est difficile vraiment d'être sollicité. J'ai eu des influenceurs qui ont beaucoup communiqué, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile pour un jeune de se placer dans ce domaine.
Bah, on espère que ça va vous ouvrir d'autres portes dans le métier que vous exercez. Nous, on va souffler encore et puis quand on revient, ce sera direction le marché.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Il sera bientôt midi si vous nous rejoignez seulement maintenant sur volume 3. Vous êtes à l'écoute de Classico. Vous allez certainement passer à table. Sinon, faire un petit tour au resto pour manger midi. Pour nous, il est temps de nous rendre au marché. Aujourd'hui, Vialingea va acheter de l'huile de palme raffinée.
Écomarché, tous unis contre la vie chère.
Samedi dernier, je me suis rendu au marché pour faire quelques achats en vue du repas du jour. Au moment d'acheter l'huile de palme raffinée, je me suis interrogé sur la différence entre l'huile de palme raffinée scellée et celle en vrac que l'on retrouve sur les étals des Bayam Selam. Un questionnement qui mérite des réponses et qui de mieux que celle qui les commercialise au quotidien pour m'éclairer. Dans mon incursion au marché de New Deido, je fais la rencontre de Gladys, commerçante habituée des lieux, qui vend aussi bien en gros qu'en détail l'huile de palme raffinée en vrac. Devant ses bidons soigneusement alignés, elle accepte de m'expliquer la différence entre ces deux produits.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande différence, vu que ça sort toujours de l'usine comme le scellé. Vu qu'on prend... La différence, c'est que nous ne mettons pas avec nos récipients à l'usine pour prendre le contenu, quoi. Alors que le scellé, ils ont leurs bouteilles et ils scellent eux-mêmes. Je ne peux pas dire que c'est la même chose, vu que ceci finit plus vite que le scellé même. Sur les fritures, à apparemment, peut-être, il y a un truc qu'ils ne mettent pas dans ça. Le vrac finit vite que le scellé. La bouteille, maintenant, c'est 1150. Et le scellé, c'est 1500. En fonction des marques. En février, c'est moins cher. Parce qu'on fait l'huile rouge raffinée. Et quand, en février, comme ça, en saison sèche, au fait, l'huile rouge baisse. Parce qu'il y a le soleil, non, les noix mûrissent et tout. C'est ça qui fait que ça baisse. Et quand ça baisse, l'huile d'arachide chute aussi. En saison pluvieuse, les noix ne mûrissent pas. L'huile rouge, pas même à 22 523 000. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est 15 000. Quand le scellé augmente, ça aussi augmente. Mais ça augmente, ça a une différence même de 1000 francs avec le scellé en bidon.
Mais je ne m'arrête pas là. Je décide de m'enfoncer un peu plus dans les allées du marché. Au détour d'un autre comptoir, une seconde commerçante veut bien m'en dire plus. Selon elle, la différence entre l'huile raffinée scellée et celle vendue en vrac se ressent surtout au moment de la cuisson.
Le vrac, c'est le déchet d'huile major. Et l'huile major, c'est le scellé. Le bon huile major, c'est le scellé. Ça n'a pas de même prix. Un tangué et demi, c'est 1700. Et un litre, 1200. Sur le prix de gros, je ne connais pas parce que nous, on porte sur les bidons avant de venir ici nous livrer aussi. Je ne sais pas trop parce que j'ai déjà cuisiné avec ça, mais je ne vois pas une très grande différence entre ça et l'autre. Parce qu'on dit que ceci-là, quand tu mets dans la marmite, ça finit vite. Pendant que le scellé, ça ne finit pas vite. Pour l'odeur, je ne connais pas l'odeur.
Après le marché, je décide de faire un tour au supermarché question de comparer les prix cette fois-ci. J'opte pour l'enseigne Carrefour Maquette. Dans les rayons, plusieurs marques d'huile scellée sont proposées. Le litre se vend autour de 1475 francs, parfois 1490 francs CFA. Un tarif finalement très proche de celui observé dans les marchés, où le litre tourne autour de 1500 francs CFA. Mais qu'en pensent réellement ceux qui utilisent ces huiles au quotidien? Préfèrent-ils l'huile de palme raffinée scellée ou celle vendue en vrac? Pour le savoir, je suis allé à la rencontre de quelques consommateurs afin de comprendre leur choix.
Ils préfèrent le vrac. Le vrac n'est pas acheter le bon huile pour consommer. C'est ça. Moi, ils n'aiment pas le vrac. Mais il y a des jours, ils me trouvent obligé d'acheter ça parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont jamais aimé ça. Ils n'ont jamais aimé, jamais. Quand c'était à 1200, j'avais toujours mon huile. 1800, 900, j'avais toujours mon huile à la maison. Mais dès que c'est monté à 1500, 1600, tu vois que tu achètes quelque chose, ils demandent toujours au marchand que d'acheter. Ça ne vaut pas la peine.
Je suis au scellé. Parce qu'ils ne connaissent pas comment on a fait pour fabriquer. Bon, la fabrication de l'eau, sur nos... Non, c'est là. Et soit même tu prends, tu utilises c'est l'eau rouge. C'est l'eau rouge, je me l'huile de palme la même. Je viens essayer ça une fois, c'était pas bien.
L'huile de palme raffinée est largement utilisée dans la cuisine camerounaise, notamment pour la friture et les plats mijotés. Elle est riche en vitamines A et E, qui jouent un rôle clé dans la protection des cellules et le renforcement du système immunitaire. Elle fournit également de l'énergie rapidement disponible, ce qui en fait un ingrédient prisé par les repas familiaux. Cependant, elle contient une proportion élevée d'acide gras saturé, ce qui impose de la consommer avec modération pour préserver la santé cardiovasculaire. Au Cameroun, l'huile occupe une place centrale dans la consommation quotidienne des ménages, notamment en milieu urbain, où elle entre dans la préparation de nombreux plats. Elle provient à la fois de la production agro-industrielle locale, avant d'être redistribuée dans les marchés et dans les grandes surfaces. Selon les données du ministère du Commerce du Cameroun, l'huile fait partie des produits de première nécessité, dont le prix est encadré afin de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Au marché de New Deido, le choix de l'huile de palme raffinée scellée et celle vendue en vrac ne se limite pas au prix. L'huile scellée offre la garantie d'une qualité standardisée, tandis que l'huile en vrac séduit par son coût légèrement plus accessible. Pour les consommateurs, chaque option répond à un besoin précis. Sécurité et régularité pour certains, praticité et économie pour d'autres. Dans tous les cas, le verdict final revient aux ménages qui jonglent entre budget, usage en cuisine et habitudes personnelles.
Classico, l'aéroport de l'économie, de l'innovation et de l'entrepreneuriat.
Merci beaucoup, Vialingeya, pour ce tour au marché. On vous ramène sur les bancs d'école. À présent, je ne sais pas lequel d'entre vous était fan de son surveillant général. Mais en tout cas, on a fait une petite escale dans l'univers de Steve, qui est justement surveillant général.
Escale dans Classico.
Bonjour, Appelez-moi Constit Abela. Au jour d'aujourd'hui, je suis surveillant général dans un collège de la place. Après plusieurs recherches, après beaucoup de temps sans emploi et dans la recherche, par la grâce de Dieu, je suis tombé sur cette offre d'emploi. J'ai postulé, j'ai passé l'entretien et on m'a sélectionné pour être surveillant général. Déjà à la base, c'est une petite anecdote, à la base je partais pour être surveillant de secteur. Par la grâce de Dieu, on m'a pris pour surveillant général. Surveillant général, c'est en anglais un peu senior discipline master. Donc c'est lui qui régit tout ce qu'il y a de mauvais dans l'établissement, tout ce que l'enfant peut faire qui est en contrainte avec le règlement intérieur d'un établissement. Donc c'est lui qui est en charge de la sécurité, de l'épanouissement de l'apprenant dans l'enceinte de l'établissement. Bon, il n'y a pas une réelle formation, parce que la majeure partie du temps, on peut dire qu'il y a une formation parce qu'on passe d'abord par surveillant de secteur, tu apprends le métier, tu sais, tu connais les comportements que tu vas rencontrer chaque jour, les enfants posés, les enfants turbulents, les têtus, les intelligents, les malades. Bon, il y a beaucoup de caractères différents en fait qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on doit passer au préalable, vous pouvez passer par enseignant, parce que l'enseignant aussi au cœur de tout ça chaque jour. C'est un peu ça ta formation pour être surveillant général. Bon, avant ça, j'ai beaucoup souffert, j'ai fait beaucoup de chantiers, j'ai fait des répétitions en consamba, j'ai même travaillé au pressing. J'ai travaillé au pressing et c'est du pressing que j'avais postulé il y a de cela 2 mois là-bas, on m'a pris. J'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de petits jobs pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir manger. Bon, la vie n'était pas facile aujourd'hui. Il y a quand même une petite situation qui me permet d'avoir mes 2000 constamment dans ma poche. Bon, comme tous les Camerounais, il n'y a pas beaucoup de choix au jour d'aujourd'hui. Donc, j'étais obligé, enfin, en quelque sorte, j'étais obligé parce que c'était le mieux qui m'était proposé. Il n'y avait pas quelque chose qui allait au-delà de ça. Bon, pour le moment, je n'ai pas autre chose. C'est pour ça que je fais ça, le chômage et tout. Je n'avais même jamais pensé pouvoir faire ça un jour. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je pouvais être dans l'enseignement en train de sanctionner les enfants ou bien de les conseiller. Oui, c'est un peu ça. Le matin, je me lève très tôt parce que je dois être là-bas avant 6h30 parce que le service disciplinaire se doit d'être très ponctuel, doit être là avant les élèves, avant les apprenants. Donc je me lève très tôt, je vais à 14 vu que je suis un peu proche de 14. Je prends la moto et ça me laisse à mon service. Une fois là-bas, j'effectue la fouille des sacs des élèves parce qu'il y a des élèves qui peuvent venir avec des armes blanches afin d'agresser leurs camarades. Une fois la fouille finie, lorsqu'on sonne pour que les élèves entrent en classe, je m'en vais les faire entrer en classe parce que ces enfants, tant qu'ils ne vous voient pas, ils n'entrent pas en classe. Tant qu'ils ne vous voient pas, ils ne voient pas le professeur qui va les enseigner, ils n'entrent pas en classe. Donc je les mets en classe. Ensuite, je partage les cahiers de texte. Bon, les chefs de classe viennent prendre les cahiers de texte, ils font avec le cahier d'appel, ils font leur travail. Bon, c'est comme ça que ça se passe. À la pause, on sonne, ils sortent. On sonne, ils entrent en classe jusqu'à 16h40. Et je dois être le dernier à quitter là-bas parce qu'il faut surveiller, il faut faire l'inspection pour savoir que les enfants sont déjà rentrés. Il n'y a plus personne dans les salles de classe parce que si on les laisse, ils vont jouer les jeux de hasard, ils vont faire des galipettes dans l'établissement. C'est un peu ça. Bon, n'importe qui, c'est trop dit, mais avec un peu de volonté, je pense que tout le monde en est capable. Mais ce n'est pas du tout facile parce que chaque jour, on est confronté à des situations vraiment très difficiles, comme les filles qui passent leur temps à tomber. Il y a eu cette semaine, dans une classe, 6 filles sont tombées. Et c'est effrayant. Il y a des enfants qui viennent là-bas avec les choses dans leur ventre, ils sont possédés. Ils viennent là, l'âme qui est dans eux, c'est je peux dire ça comme ça. Ils entrent en transe et tu comprends une autre voix. Il y a beaucoup de choses. Ce genre de situation, on essaye de stabiliser du mieux qu'on peut et on appelle le parent. Le parent se rend à l'établissement parce que le parent sait, il sait que l'enfant a ça. Parce que c'est pas chez nous que l'enfant dévoile ce genre de comportement. Donc on appelle le parent. Le parent arrive sur les lieux, c'est ce qu'il a fait. Ou bien si l'enfant a un frère ou une soeur ou une connaissance qui peut gérer, qui est capable de gérer ça, bon, on l'appelle. Non, ça manque pas. Vu que je suis jeune, il y a même mes petits frères de 2 ans là-bas. Donc, du coup, ils se croient au même niveau que moi. Quand je dis monsieur enfilé, parce que chez nous on enfile, ils te regardent d'abord, ils te jugent, ils te minimisent. Là, tu entres en confrontation avec lui. Mais il faut savoir comment entrer en confrontation avec lui. Parce que moi, j'essaye de voir le comportement de tout un chacun avant d'arriver. Parce qu'on va voir. C'est menti aujourd'hui, les enfants ont une mentalité très très agressive. Ils sont capables de te faire quelque chose et réfléchir après. Donc j'essaye de lui faire comprendre qu'il vient à l'école, c'est pour prendre son diplôme ou bien passer en classe supérieure, pas pour venir ici mettre le surveillant mal à l'aise et tout. Bon, je passe plus par les conseils pour atteindre leur cœur, ce genre de profil. Parce que si tu commences avec la force avec eux, tu ne vas pas t'en sortir. Ils vont t'amener le retour devant le problème. Ou bien tu seras de dos, ils vont te poignarder, comme on voit les cas chaque jour à la télé. La plus grosse difficulté dans le métier, je veux dire que c'est la gestion des élèves. Parce qu'il y a des élèves, des filles qui vous font carrément le rentre dedans. Parce qu'on ne va pas se mentir, les filles de première terminale, elles sortent avec des gars plus âgés que moi-même, ou bien qui ont mon âge. Donc quand tu viens parler à une fille, elle te fait des manières, chaque jour tu es confronté à ça. Et les garçons aussi, ils sont toujours en train de vouloir te titiller pour savoir vraiment qui tu es. Parce que même physiquement, quelqu'un peut te voir et te déteste pour rien. Oui, il peut te voir et te déteste pour rien. Donc il est toujours en train de te titiller pour que tu entres dans son jeu et qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Donc c'est à nous de rester stoïque, pragmatique dans le métier, parce que c'est très difficile. Et chaque jour, les petites filles là sont toujours là, te menacent avec les mini-jupes, les mini-ceci. Je vais lui donner le conseil qu'on m'a donné quand moi je suis entré. Et c'est vraiment le meilleur conseil pour perdurer. De faire attention aux filles dans l'établissement. Parce que ce sont les cadres du collège qui me l'ont dit. Que tu es très beau chaque jour. Sois-en sûr, tu n'auras même pas besoin de les draguer, elles vont venir vers toi. Donc c'est le seul conseil que je peux donner à un jeune qui veut entrer dans le métier. Fasse très attention à ses élèves, aux jeunes filles. Ah non, j'ai autre chose en tête. Restez là. Bon, là-bas, c'est une belle expérience. On va pas se mentir, c'est une belle expérience. Inattendue même. Mais bon, chacun a ses projets, chacun a ses rêves. Du coup, c'est une étape pour atteindre mon projet, mon rêve futur.
Tout savoir sur les dernières innovations dans Classico.
L'innovation de ce jour nous emmène en Afrique de l'Ouest découvrir Ewaji, une plateforme d'avis clients qui apporte des solutions innovantes pour la crédibilité des entreprises au Bénin et en Afrique, tout en guidant les clients vers le meilleur choix lors des achats de biens ou de services. C'est donc une réponse à la complexité de mesurer la crédibilité des professionnels à distance, le besoin d'un outil de réputation adapté aux réalités des pratiques commerciales en Afrique. Vous avez donc rendez-vous sur la plateforme www.ewaji.com pour partager vos expériences en tant qu'utilisateur et consommateur averti afin de mettre également en relation des entreprises fiables certifiées par des avis clients rigoureusement vérifiés. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, rendez-vous sur www.ewaji.com. On va parler d'économie sur le continent à présent. Pour sa transition énergétique, le monde a besoin de minerais présents en masse dans les sols riches du continent africain. Cette course aux minerais stratégiques s'accélère, notamment avec le rapprochement États-Unis, République démocratique du Congo. Mais comment le continent peut-il vraiment tirer profit de la demande mondiale? Illustration avec 2 initiatives, mieux connaître ses sous-sols et réussir à négocier des contrats équitables. On parle de tout ça dans Afrique Économie.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
On dit souvent que l'Afrique détient 30% des minerais stratégiques, mais pour professeur Glenn Waila, directeur du Centre africain de recherche sur les systèmes de minerais à l'université de Wits, l'exploration est encore trop peu financée sur le continent pour vraiment avancer des données précises.
Le plan pour l'avenir afin de mettre au jour ces ressources consiste donc en premier lieu à consolider les données africaines. Si vous recherchez des cartes géologiques et des gisements minéraux en Afrique, vous ne trouverez jamais de cartes uniques et unifiées. Cette unification est essentielle car une fois que l'on dispose de plusieurs couches de preuves géologiques de gisements minéraux, on peut alors utiliser l'intelligence artificielle pour affiner la zone de prospection, puis des algorithmes pour définir les cibles dans différents pays.
D'autant plus qu'un état des lieux plus précis rassure les investisseurs internationaux, rappelle professeur Nwaila.
Cela leur donne l'assurance que leur achat ou leur investissement générera les rendements escomptés. Et vous, ça vous permet de négocier un accord plus avantageux.
Les négociations, une étape cruciale pour que les gouvernements tirent vraiment profit de cette demande presque exponentielle en minerais stratégiques.
Il faut aussi que les personnes qui seront en charge de négocier ces contrats soit outillé.
Olivier Pognon, directeur de ALSF, la Facilité de soutien juridique, une organisation qui conseille les gouvernements du continent.
Ce sont des contrats extrêmement complexes et il y a un principe, je pense, qui est admis, c'est que la raison pour laquelle un certain nombre de contrats n'ont pas profité aux pays africains, c'est parce que ces contrats étaient déséquilibrés. Donc on essaie de faire en sorte que, premièrement, les équipes sur le terrain soient formées de manière à pouvoir gérer les problématiques contractuelles qui se posent à eux. Et puis, les ressources sont sur le continent. Ça doit quand même donner un levier de négociation non négligeable. Et on a le sentiment que le continent n'a pas suffisamment utilisé ces leviers de négociation.
Mais l'avocat reste pragmatique. La route est encore longue face à des multinationales très expérimentées.
Ce sont des initiatives qui, à l'échelle d'un continent, prennent du temps. La satisfaction qu'on tire de ce que nous faisons, nous, à LSF, c'est que l'organisation a beaucoup gagné en crédibilité. Je pense que c'est un indicateur que la question de la bonne gouvernance dans les contrats, de la transparence, est une considération de plus en plus importante pour nos gouvernements. Il y a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, nous sommes dans cette dynamique.
L'organisation se félicite d'avoir permis aux gouvernements africains d'économiser plusieurs milliards de dollars ces dernières années grâce à des contrats mieux négociés. Valentin Hugues, de retour du Cap, RFI.
Ce programme vous est proposé par notre partenaire RFI, Radio France Internationale, la radio du monde.
En route vers de nouveaux horizons dans Classe Éco.
L'aéronef est déjà posé sur le tarmac. Merci pour votre fidélité à ce magazine. À ce rendez-vous dédié aux consommateurs et aux entrepreneurs, on se retrouve demain dès 10h pour le prochain vol en Classe Éco.
L'émission que vous venez d'écouter est une rediffusion.
Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.